Bonsoir pour ces nouvelles rencontres de la médiathèque centrale d'agglomération Émile Zola en partenariat avec la librairie Soran. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alberto Manguel à plusieurs titres, déjà pour lui-même, mais aussi pour Borges, puisqu'on a un événement quand même, c'est cette parution, cette nouvelle édition en Pléiade de Borges, puisque pour des questions de droit, ça n'avait pas été réédité, et là c'est réédité avec pas une complète traduction, on n'a pas revu toute la traduction, mais on a revu, je crois, quand même un certain nombre de passages, donc c'est quand même un événement à la fois éditorial et intellectuel, qui a d'ailleurs été déjà salué il n'y a pas si longtemps sur France Info, comme un événement important. Alors pour parler de Borges, dont les œuvres paraissent dans la Pléiade, nul n'était sans doute mieux placé qu'Alberto Manguel, du fait de sa très grande proximité avec l'œuvre de Borges, qu'il a traduite, mais aussi de l'homme qu'il a approché de très près, car il a été aussi son lecteur. Mais avant de parler de vous en tant que lecteur de Borges, peut-être rappeler que vous êtes né à Buenos Aires en 1948, dans une famille d'origine russe et autrichienne. Vous passez vos premières années en Israël. Votre père avocat est aussi diplomate. Une nourrice tchèque en charge alors de votre éducation vous enseigne l'anglais et l'allemand. Donc vous devenez véritablement un polyglotte, un homme de l'universel, un homme du monde, un citoyen du monde. Retournant en Argentine, vous apprenez alors votre langue maternelle, l'espagnol. Tout juste sorti de l'adolescence, vous travaillez à la librairie où Borges, directeur de la proche Bibliothèque nationale, c'est donc effectivement après le départ de Perón, puisqu'il étant bien sûr anti-péroniste, Borges était aveugle depuis la cinquantaine, il vient chercher ses livres dans cette librairie où vous travaillez, et il vous engage alors pour 4 lectures par semaine. Là, c'est effectivement un événement, je suppose, dans la vie, un événement un peu exceptionnel, mais vous allez nous en parler plus longuement. Si l'impression d'être en quelque sorte un outil dont Borges se sert pour pallier sa cécité ne vous quitte pas, puisque vous avez dit que vous étiez conscient d'être la personne qu'il avait sous la main, il y a quand même un énorme plaisir qui est non retenu de participer ainsi à l'élaboration de quelque chose de vraiment supérieur et d'universel, en dialoguant finalement avec Borges et son œuvre. Je reprends un peu votre biographie. En 68, départ en Europe, où en tant qu'éditeur, vous travaillez à Paris chez Gallimard et De Noël, puis Londres et Milan, avant de vous installer en Polynésie puis au Canada, où vous obtenez la nationalité canadienne en 1985. Vous vivez aujourd'hui en France, en pays poitevin, dans un ancien presbytère où sont empilés sur des rayonnages de chêne rouge les 30 000 ouvrages de votre bibliothèque universelle. 6 granges au total, une pour chaque langue. Pour vous, une bibliothèque, manifestement, est le reflet du monde. Et là, on ne peut qu'en tant que bibliothécaire être en symbiose avec vous-même. Mais c'est un reflet optimiste, réorganisé, repensé, pour lui donner une structure narrative. Et en tout cas, il y a vraiment à la fois, ce n'est pas du descriptif, c'est de l'actif, cette bibliothèque qu'on vient de décrire. Lecteur assidu, mais aussi écrivain à l'œuvre abondante et généreuse, vous recevez en 2004 le prix Roger Calois pour l'ensemble de votre œuvre, puisque vous êtes essayiste, romancier, traducteur, critique littéraire, auteur de nombreux articles dans la presse internationale, directeur de collection chez Actes Sud. Alors maintenant, je vais citer quelques titres, mais en essayant d'éviter la litanie des saints et d'être ennuyeux. Mais enfin, on peut quand même citer quelques titres. Le dictionnaire des lieux imaginaires, un best-seller pour nous bibliothécaires, une histoire de la lecture, prix Médicis en 96. Je crois que vous avez été invité dans nombreuses bibliothèques, et pas pour ce livre qui est vraiment remarquable. Dans la forêt du miroir en 98, le livre d'images en 99. Une biographie de Stevenson en 2003, le livre des éloges plus récemment. On peut dire, pour conclure, que les mots sont votre seule patrie. Vous avez déclaré dans une interview que le véritable pays d'un lecteur est en fait celui des écrivains dont il lit les livres. Pour moi, qui suis né en Argentine, Proust ou Stevenson ne sont pas des étrangers. Ils font partie de ma famille. Ce sont mes racines et ma famille. Et bien sûr, dans les membres de votre famille, vous avez cité Proust et Stevenson, je crois que Borges est encore un peu plus dans votre famille du fait de ce qu'on a vu, vous avez été son lecteur, du fait de ce petit livre paru en 2003 chez Borges, mais ça, vous allez nous en parler plus longuement, et en tout cas, croyez qu'on est très honoré aujourd'hui de vous accueillir dans cette médiathèque, monsieur.
Merci beaucoup. Donc, je suis ravi d'être à Montpellier, merci de cette invitation. Et surtout, je suis ravi d'être là pour célébrer cette nouvelle naissance de ces deux volumes de Borges en Pléiade. C'est un événement essentiel parce que, je l'ai dit lors de la parution de la première édition, c'est la meilleure édition de Borges qui existe au monde, y compris les éditions en espagnol. Borges n'aurait pas été surpris, lui qui l'avait dit, de la traduction en anglais du Vatek de Beckford, que l'original était infidèle à la traduction. Dans ce cas-ci, on peut dire que les éditions originales de Borges sont infidèles à l'édition que Bernays a fait, qui est, à mon avis, parfaite, ou du moins le genre de perfection que nous pouvons atteindre dans ce monde. La première édition était très importante parce qu'elle nous donnait à lire des textes de Borges qui étaient inconnus, que personne n'avait vu depuis leur première publication, qu'il a retrouvé dans toutes sortes d'endroits, et aussi avec un commentaire, un contexte qui expliquait certains changements parce que Borges a retravaillé des textes le long de sa vie. Les raisons de l'interdiction de cette première édition demeurent obscures. On sait que la veuve de Borges est opposée à la distribution de ces deux volumes. Il y a eu, après l'accord de je crois que c'était Caravaggio, je sais plus qui a été celui qui a intercédé entre Gallimard et la veuve, et donc il y a eu quelques petites corrections dans l'édition que vous pouvez acheter aujourd'hui. Je me suis pas occupé d'aller voir quelles sont ces corrections parce que elles ne pouvaient pas être très importantes puisque cette première édition était si bonne. Pourquoi lire Borges aujourd'hui? Eh bien, je pense tout simplement parce que, pour nous lecteurs, la littérature se divise dans un avant et un après Borges. Il y a une façon de lire et d'écrire, bien sûr, avant Borges, mais surtout lire, et une autre façon après Borges. Celui qui, pour la première fois, donne au lecteur ses lettres de noblesse. Ce n'est pas que les découvertes qu'il fait dans le monde de la littérature au sujet du lecteur et du pouvoir du lecteur sont nouvelles. Lui-même, une des découvertes qu'il fait, c'est qu'il n'y a rien de nouveau, c'est-à-dire que dans la littérature, on réécrit, on n'écrit jamais quelque chose d'absolument original. On reprend toujours ce qui a déjà été dit. Nous travaillons avec des mots qui ont été employés par ceux qui nous ont précédés et nous les mettons dans un autre ordre. La notion de la bibliothèque universelle, la bibliothèque de Babel que Borges a inventée, où vous trouvez tous les livres qu'on peut écrire, non seulement qui ont été écrits, mais qu'on peut écrire, par une combinaison des lettres des alphabets sur un certain nombre de pages dans un format précis, donne tous les livres du monde, tous les textes du monde. Donc, c'est une façon de dire que toute écriture est déjà concevable et déjà en quelque sorte conçue. Nous ne pouvons pas exprimer une idée nouvelle, nous pouvons lui donner une nouvelle tournure. Et en fait, Borges dit à un certain moment, ce qui est impossible, si nous avions assez de temps, c'est de ne pas écrire Hamlet ou Don Quichotte. Je commence peut-être par ma première connaissance de Borges. Moi, je fais mon école secondaire en Argentine et dans les cours de littérature espagnole, on devait étudier Borges. Et c'était très curieux, cette expérience d'étudier un auteur qu'on savait vivant, puisque, par exemple, dimanche, apparaissait un sonnet dans le journal, et la semaine d'après, le professeur nous donnait ce sonnet comme un texte à étudier. On le croisait dans la rue, on savait qui il était, mais avec cette arrogance que nous pouvons avoir dans notre adolescence, pour moi, le fait qu'il était vivant et qu'il était quelqu'un qu'on étudiait à l'école le faisait bien moins important à mes yeux. Il n'avait pas le prestige, mettons, de Shakespeare ou de Cervantes, qui avait la gloire d'être mort. Et donc, quand il est venu dans la librairie où je travaillais, puisque j'avais un petit travail dans une librairie anglaise et allemande après l'école, il venait là acheter ses livres. Moi, je n'étais pas pris par ce genre d'émotion qui me serait donné aujourd'hui face à des écrivains que j'admire. Donc, Borges était à l'époque déjà célèbre, en partie en Argentine, un peu aux États-Unis. Nous sommes au milieu des années 60, et il était aveugle, il avait hérité la cécité de son père, donc il savait qu'il allait devenir aveugle, et au milieu des années 50, à la chute du gouvernement de Perón, il lui arrive deux choses. On le nomme directeur de la Bibliothèque nationale et il devient aveugle pour du vrai. Et il écrit un poème qui est devenu célèbre, qui s'appelle le poème des dons, dans lequel il demande que personne ne réduise à un reproche cette démonstration de la merveilleuse ironie des dieux qui lui a donné en même temps les livres et la nuit. Lui, dit-il, à lui qui s'imaginait le paradis sous la forme d'une bibliothèque. Donc, c'est le nouveau directeur de la Bibliothèque nationale, cet grand écrivain aveugle, vient dans cette librairie qui s'appelait Pygmalion, qui n'existe plus comme tant d'autres choses, et il voulait acheter des livres d'anciens anglo-saxons, parce qu'il s'était mis à l'étude de l'anglo-saxon. Il se faisait accompagner par sa mère, qui avait déjà 90 ans, et qui s'impatientait énormément avec lui en lui disant « Georgie », parce qu'elle l'appelait Georgie, parce que sa grand-mère était anglaise, donc ils employaient en lieu de Jorge, Georgie. Lui disait, George, je ne sais pas pourquoi tu perds ton temps avec l'anglo-saxon au lieu d'étudier quelque chose d'utile comme le latin ou le grec. Mais Borges persistait et donc il nous demandait de lui procurer des dictionnaires d'anglo-saxon, des grammaires anglo-saxonnes. Et un jour, en parlant, il me dit, est-ce que vous êtes libre ce soir? Est-ce que vous ne pourriez pas venir me faire de la lecture parce que ma mère se fatigue beaucoup? Et j'aurais besoin de parcourir quelques textes. Moi, j'ai accepté. Je dis, j'ai accepté sans plus parce que, comme je vous disais avant, je n'avais nullement le sentiment d'être devant une expérience extraordinaire, quelque chose que la chance m'avait donné pour connaître le plus grand des lecteurs du XXe siècle. Et donc, à partir de ce moment-là, le long de 2-3 ans, moi, je suis allé chez Borges le soir lui faire la lecture. Je lui faisais la lecture. Après, on allait dîner dans un hôtel qui était en face de chez lui. Et on continuait à parler. Je dis, on continuait à parler, mais en fait, c'est Borges qui parlait. C'est Borges qui lisait. C'est Borges qui faisait les commentaires, c'était Borges qui parlait après. Moi, je lui prêtais ma voix en lui prêtant mes yeux. Moi, je lisais ce qu'il voulait que je lise, et je m'arrêtais là où il voulait que je m'arrête, et j'ai compris très vite qu'il ne voulait pas que moi j'intervienne dans cette conversation. On me demande souvent si nous étions amis, Borges et moi. Pas du tout, pas du tout. Il avait demandé à cet adolescent qu'il ne pouvait pas voir de venir lui faire la lecture. Il était très gentil envers moi. Moi, je profitais, je profite encore de ces extraordinaires commentaires, illuminations, versions qu'il donnait, associations qu'il faisait de nos lectures. Mais en fait, il n'y avait aucune autre relation que celle d'un lecteur anonyme, pour ainsi dire, et le lecteur qui voulait reprendre un texte qu'il connaissait déjà. Parce que la situation à ce moment-là était la suivante. Quand Borges est devenu aveugle, il s'était dit qu'il n'allait plus écrire de la prose. Il avait pensé qu'il pouvait continuer à écrire de la poésie parce qu'il pouvait composer des poèmes dans sa tête et ensuite les dicter tout entier. Mais la prose était autre chose. Il fallait la construire mot par mot, phrase par phrase, changer, vérifier une phrase contre une autre et ainsi de suite. Et si bien les textes de Borges sont tous des textes très courts, il n'a jamais écrit un roman. Il disait que penser à l'argument d'un roman, à l'histoire d'un roman, est un jeu que nous aimons tous, mais qu'écrire un roman est une exagération. Il préférait souvent, disait-il, de s'arrêter au titre d'un roman. Par exemple, dans le cas de l'écrivain Eduardo Mageia, un écrivain argentin, il disait qu'il avait de très beaux titres comme « La cité auprès du fleuve immobile », qui est une définition de Buenos Aires, ou « Tout ce qui est vert périra » ou « Conte pour une Anglaise désespérée ». C'est de très beaux titres. « Salle d'attente », de laquelle Gide avait dit « Quelle belle langue », parce qu'en espagnol on dit « Sala de espera ». Quelle belle langue qui associe l'attente à l'espoir. Et Borges disait que c'était tous des beaux titres. C'était dommage que Mager a insisté à mettre un roman derrière eux. Donc, il s'était dit qu'il allait écrire seulement de la poésie. Mais au moment où je l'ai rencontré, il avait pensé que peut-être il risquerait d'écrire de nouveau des nouvelles. Mais avant de s'y mettre, il voulait revoir les grandes nouvelles, les grands récits des écrivains qu'il préférait, pour voir vraiment comme un mécanicien qui va voir comment une voiture est faite, comment ces nouvelles avaient été construites. C'était des nouvelles qu'il connaissait vraiment par cœur, de Kipling, de Henry James, de Chesterton, de Léon Blois, de Giovanni Papini et de tant d'autres. Et donc, il me demandait de lui faire la lecture. J'arrivais chez lui, il avait un tout petit appartement, 3 pièces, avec à peine 500 livres, très humblement meublé. Le luxe ne l'intéressait pas. Quand Vargas Llosa, le jeune Vargas Llosa, est allé lui rendre visite comme journaliste, il s'était étonné de voir jusqu'à quel point la demeure de Borges était humble, et lui a dit, mais un grand écrivain comme vous devrait vivre dans un endroit beaucoup plus luxueux. Et Borges s'est beaucoup fâché, lui a dit, c'est peut-être comme ça que vous faites les choses au Pérou. Donc, il voulait écrire de nouveau des nouvelles, et il me demandait par exemple de lui lire du Kipling. Donc, je commençais à lui lire l'histoire, et il m'arrêtait au bout de 2 phrases pour me signaler, ou pour se signaler à lui-même plutôt, « Ah, voilà ce mot, ah, Kipling va le reprendre 3 pages plus tard dans un autre contexte, mais le lecteur se souviendra. » Et il faisait constamment des remarques de ce genre. Par exemple, bon, j'ai retenu quelques-unes. Le fait que Kipling voulait faire croire au lecteur qu'il est plus intelligent que l'auteur. Donc il mettait des hésitations dans le texte. Je ne sais plus si c'était un jeudi ou un vendredi. Ou, peut-être il pensa de cette façon-là, mais en fait, et ainsi de suite. Même chose pour James. Il signalait que chez James, le mystère qui reste dans l'histoire qui est racontée, où on ne sait pas exactement ce qui se passe, on soupçonne la possibilité d'un certain événement qui n'est jamais dit précisément. Et Borges disait, nous croyons en tant que lecteur que James connaissait la vraie histoire. Mais en fait, je suis sûr que si on interrogeait James, James aurait répondu avec ce qu'il a écrit. C'est-à-dire qu'un grand écrivain ne cache pas ses secrets au lecteur. Il révèle tout ce qu'il sait. Mais tout ce qu'il sait reste une ambiguïté, ou du moins plusieurs versions d'une même histoire dans lesquelles tant le lecteur comme l'auteur doivent choisir. Je fais une parenthèse. Borges a écrit un des meilleurs livres sur Dante, qui était pour lui le livre fondamental de la littérature, la Divine Comédie. Et parmi ses essais, il y en a 9, il y a un qui s'appelle Le problème du Golino. Vous vous souvenez qu'à la fin de l'Enfer, Dante rencontre le comte Ugolino qui est en train de ronger le crâne du cardinal Ruggieri. Le cardinal Ruggieri avait enfermé le comte Ugolino avec ses enfants dans une tour pour qu'il meure de faim. Et Ugolino raconte cette histoire à Dante en lui disant que ses enfants lui demandent à manger, il n'a rien à leur donner, et ses enfants finissent par s'offrir à leur père en lui disant « Tu nous as donné la chair, nous te rendons la chair. » Et Ugolino meurt dans la plus atroce souffrance. Et Borges nous dit que Dante ne nous dit pas clairement si Ugolino a mangé ou n'a pas mangé ses enfants. Et que 7 siècles de commentaires depuis l'écriture de la Divine Comédie ont essayé de résoudre ce problème. Est-ce que Ugolino a mangé ou n'a pas mangé ses enfants? Et Borges arrive à cette conclusion. Dans l'histoire vraie, dans le temps vrai, le vrai comte Ugolino a dû manger ou ne pas manger ses enfants. Mais dans la littérature, dans le poème de Dante, Ugolino mange et ne mange pas ses enfants. Ces deux possibilités sont là, existent l'une aussi vraie que l'autre. Et que la littérature nous donne justement ces situations ouvertes, ces questions ouvertes, et que la vérité reste dans la tension entre ces deux possibilités. Même chose pour Henry James. Et il me montrait à fur et à mesure qu'on lisait comment l'histoire que nous croyons se passe est en fait une des possibilités parce qu'il y a toujours un adverbe, un adjectif, une petite phrase, une petite description, un commentaire à part qui donne une autre possibilité. Le long des soirées où je lisais, je faisais de la lecture à Borges, je me suis aperçu, comme je vous dis, qu'il ne voulait pas de mes commentaires. Il avait le tic, un tic verbal de sa génération qui consistait à finir ses commentaires avec une question, n'est-ce pas? Et moi, au début, je répondais à ce « n'est-ce pas ?» Et je me suis aperçu très vite qu'il ne voulait pas ma réponse. Et donc, je le laissais parler. Et c'est comme ça que, le long des soirées, il a parlé de tout. C'était une façon pour lui, je crois, de parcourir cette bibliothèque qu'il portait dans sa tête. de revoir les textes qu'il avait lus. Nous les faisons tous, nous lecteurs. Nous repensons à des textes que nous avons aimés, nous les mettons à côté d'autres textes peut-être inattendus, nous faisons des rapprochements, des associations, des variations. Borges disait que c'est justement le grand pouvoir de la mémoire qui est celle de refaire le passé, ce qui est interdit à Dieu, donc de refaire, de changer le passé, nous est donné à nous, êtres humains, parce que nous avons la mémoire, parce que notre mémoire revoit, refait, change ce que nous avons cru vivre, ce que nous avons cru lire, et que chaque mémoire est la mémoire d'une autre mémoire, et donc nos mémoires de nos lectures sont une sorte de palimpseste auquel nous ajoutons constamment de nouvelles versions. Eh bien, ce que nous faisons tous, Borges le faisait aussi, seulement que sa bibliothèque était plus profonde, sinon plus vaste que la plupart de nos bibliothèques mentales, et ses associations étaient tout à fait étonnantes. Je vous disais que Borges est, à mon avis, le plus grand lecteur du XXe siècle. Et je le dis pour une raison précise, parce qu'il nous a donné, dans sa littérature, certaines règles, certaines observations, certaines découvertes sur nos pouvoirs de lecteur. Et j'aimerais passer revue avec vous à certaines de ces observations. Une des toutes premières est une qui apparaît dans celui qui est peut-être son texte le plus célèbre, Pierre Ménard, auteur du Quichotte. Vous vous souvenez peut-être de ce texte. Il apparaît dans les années 30 dans une revue argentine, Sur. Et comme cela apparaît dans une revue où on publie des fictions, des poèmes, des essais, ça a l'air d'être un essai. Si vous lisez ce texte pour la première fois, vous ferez peut-être, comme ont fait les premiers lecteurs de Borges, vous croirez qu'il s'agit d'un hommage à un écrivain français peu connu, d'ailleurs de cette région, qui s'appelle Pierre Ménard, qui avait essayé d'écrire certains textes un peu froids, un peu rhétoriques, mais qu'à un moment donné se met en tête d'écrire le Quichotte. Non de réécrire le Quichotte, non de copier Cervantes, mais d'écrire mot par mot le même texte que Cervantes. Et donc, Borges nous dit que Pierre Ménard arrive à un certain moment à écrire certains chapitres de la première partie du Quichotte, et Borges signale que, nous fait remarquer, l'extraordinaire originalité de ces textes. Et il compare un paragraphe de Cervantes avec le même paragraphe de Ménard. Les mots sont les mêmes, mais la lecture ne l'est pas. Le texte de Cervantes dit l'histoire mère de la vérité, et ainsi de suite, est un éloge rhétorique de l'histoire. Et Borges signale que pour un érudit de son temps, qu'en Cervantes, c'est presque un lieu commun. Ça n'a pas grand intérêt. Mais reprenons le texte de Ménard. L'histoire, mère de la vérité, ainsi de suite. Et Borges dit, mais quelle extraordinaire originalité! Pensez-vous, Ménard, un auteur du début du XXe siècle, pense à l'histoire non comme une conséquence de la vérité, des faits qui se sont passés, mais comme ceux qui dictent la vérité, que c'est l'histoire qui est la mère de la vérité. C'est ce que nous pensons s'est passé et la vérité. C'est une révolution philosophique. Ce jeu de... Et le lecteur s'aperçoit que les mots sont identiques. Mais qu'est-ce qui nous indique ce jeu ? Que le lecteur, dans son contexte, sachant ce qu'il croit savoir de l'auteur, des circonstances de l'écriture, modifie ce texte. Et Borges finit ce Pierre Ménard, auteur du Quichotte, en disant que cet exercice nous sert à, par exemple, prendre l'imitation de Christ de Kempis, comme si c'était écrit par James Joyce. Et qu'à ce moment-là, quel extraordinaire renouvellement pour ce faible exercice spirituel. Faites-vous-même l'expérience, prenez un texte n'importe lequel qui vous ennuierait, par exemple, imaginez par exemple l'annuaire téléphonique et mettez en tête comme auteur Raymond Queneau. Tout à coup, vous allez lire un autre livre. Ça, c'est une découverte essentielle. Bon, après, on la retrouve chez Diderot, chez Stern et tant d'autres. Mais c'est Borges qui la met en place pour nous dire que nous, en tant que lecteurs, nous avons le pouvoir de renouveler un texte, de dire ce qu'est un texte. Vous voyez à quel point c'est important ce pouvoir que nous avons. Prenons un autre texte. Là, il s'agit d'un essai. Il s'appelle « Le précurseur de Kafka ». Borges nous dit qu'il lit Kafka et que l'histoire, par exemple, du château, lui fait penser à un roman inachevé de Henry James, qui à son tour lui fait penser à ce paradoxe de Zénon pour démontrer que l'espace n'existe pas. Vous vous souvenez, pour aller de A jusqu'à Z, il faut passer par D. Pour aller de A à D, il faut passer par C. Pour aller de A à C, il faut passer par B, ainsi de suite. Et donc, il y a toujours un point entre les deux points que vous voulez rejoindre. Donc, l'espace n'existe pas. Le mouvement n'est pas possible. Ce paradoxe est exactement la même démarche qui se passe dans le château de Kafka. On n'arrive jamais au château. Et finalement, ça lui fait penser à une nouvelle de Lord Dunsany, qui était un auteur irlandais de contes fantastiques. Et à la fin de ses réflexions, Borges nous dit, si je ne me trompe pas, Henry James, Zénon et Dunsany n'ont rien en commun, sauf Kafka. Et donc, chaque auteur, dit-il, chaque écrivain crée ses précurseurs. Voyez combien c'est intelligent cette réflexion, parce que en fait, c'est pas seulement l'écrivain, c'est nous, les lecteurs, qui créons cette histoire de la littérature. Chaque histoire de la littérature n'est pas celle que nous apprenons à l'école, celle qui apparaît dans les livres officiels. Aucun lecteur ne lit la littérature française, par exemple, en disant « je commence par le jeu de Robin et Marion et je vais jusqu'à Claude Simon ». Bon, personne ne lit comme ça, sauf si on est fou ou un professeur universitaire. Mais nous, lecteurs, nous construisons nos histoires de la littérature selon nos caprices, selon le hasard, selon le fait qu'un livre nous est tombé entre la main avant qu'un autre. Si, par exemple, vous lisez Huckleberry Finn après avoir lu Le Kim de Kipling, vous allez penser qu'il s'agit d'une réécriture ou d'une version du Kim. Si vous lisez Le Quichotte après avoir lu Huckleberry Finn, vous allez penser que Quichotte et Sancho sont une version de Huckleberry et Jim, et ainsi de suite. Nous faisons nos propres chronologies de l'histoire de la littérature. Donc ça, c'est un deuxième point que Borges fait sur nos pouvoirs des lecteurs. Il y en a bien d'autres. Je citerai par exemple une autre nouvelle, récit, essai chez Borges. On ne sait pas jamais dans quel genre on se trouve, parce qu'il essayait de détruire la notion même de genre, genre littéraire. C'est un examen de l'œuvre de Herbert Quain. Et Herbert Quain est un écrivain anglais dont Borges analyse l'œuvre, et il nous montre que Quain avait imaginé une sorte de pyramide de textes dans lequel il y aurait un premier texte et ensuite deux variations sur ce texte et ensuite quatre variations qui seraient à chaque fois deux variations de cet autre texte. Vous voyez comment cette pyramide s'est construite. Et donc à partir d'une version, d'une histoire, d'une anecdote, vous avez tout le reste qui finit par être toute l'histoire de la littérature, parce que tout y rentre. Et ce que Borges nous dit, c'est qu'on n'a pas besoin de suivre cette pyramide de ce premier point jusqu'au dernier ou les derniers. On peut prendre un épisode ici, un épisode là. Lui-même, il dit, moi, j'ai pris dans l'œuvre de Quain, de ce Quain qui l'a imaginé, évidemment, cette histoire que j'ai transformée dans mon récit, Les ruines circulaires. C'est pour dire, encore une fois, une découverte qu'il fait pour nous lecteurs. Quand nous lisons par association. Toute histoire, chaque roman, chaque nouvelle, chaque poème, chaque essai que nous lisons peut être associé à un autre. Ce que je vous disais au début sur cette manque d'originalité, d'ailleurs l'originalité, la notion d'originalité est une notion très moderne, inventée par les surréalistes. Avant cela, la notion d'être original n'avait aucune valeur. Certainement, ni Shakespeare ni les Grecs pensaient qu'ils étaient originaux. Bon, donc, si nous avons une construction qui nous permet d'associer n'importe quelle histoire avec une autre, de voir une connexion entre Madame Bovary, le Médée de Sénèque, avec Lysistrata, avec l'histoire de Pénélope, ainsi de suite, nous avons toute l'histoire de la littérature, mais refaite comme des variations sur un seul thème. Ce qui serait ce premier thème, bon, nous pouvons donner plusieurs suggestions. Borges, mais aussi Queneau, disait que les deux thèmes fondamentaux se trouvaient dans l'Odyssée et l'Iliade. Que tout roman, toute œuvre littéraire est soit l'Odyssée, soit l'Iliade. Parce que la vie est soit une bataille, soit un voyage. Donc, c'est les deux métaphores essentielles qui sont variées à l'infini. Bon. Encore, donc, une découverte de Borges. Et comme ça, il y en a plein d'autres. Une qui est très importante, qui rejoint l'ancienne métaphore du monde comme livre, qui est une métaphore qui vient de la Bible et avant, est reprise par Borges pour nous dire qu'en fait, ce que nous connaissons du monde passe toujours par les livres, passe par les mots que nous avons donnés pour nommer ce monde que nous allons ensuite découvrir. Et il a une nouvelle, qui est la seule longue nouvelle qu'il a écrite, qui s'appelle « Le Congrès », dans lequel un homme rêve à faire une encyclopédie du monde. Une encyclopédie qui serait plus complète que les encyclopédies que nous connaissons, où il y aurait tout ce qui se trouve dans le monde. Et donc, il lance cette entreprise, il y a des chercheurs, et finalement, pour des raisons qui ne sont pas des raisons littéraires intellectuelles, le projet ne réussit pas. Et l'homme se sent frustré, mais il réfléchit et il comprend qu'en fait, ce projet de faire une encyclopédie universelle n'a pas réussi parce que cette encyclopédie existe déjà et c'est le monde lui-même. Et donc, il prend une charrette, c'est dans l'ancien Buenos Aires de la fin du 19e siècle, et il parcourt la ville comme si c'était son œuvre, c'est-à-dire les arbres, les maisons, le ciel, toutes sont des choses qui sont en fait partie de son encyclopédie, celle qu'il n'a pas réussi à faire parce qu'elle est déjà faite. Le long donc de ces 2-3 ans que j'ai vu Borges, il m'a parlé de toutes ces choses-là, mais sans aucune vanité. Il disait, et il le dit d'ailleurs dans l'épigraphe de son deuxième livre de poèmes, que si le lecteur trouve un vers qui lui plaît, qu'il excuse à l'auteur l'impolitesse de l'avoir pris en premier, parce que ce n'est qu'un hasard que lui soit l'auteur et vous le lecteur de ces textes. Toute découverte qu'il faisait, il la référait soit à un autre écrivain, soit à vous avec qui il parlait. Il faisait semblant que c'était une observation que vous aviez faite qui lui a permis d'arriver à cette merveilleuse conclusion qu'il vous offrait. Il parlait de la littérature comme quelque chose que nous possédons en commun et où il n'y avait aucune règle sauf celle dictée par notre propre intelligence et notre propre goût. Il se méfiait de la tendance de notre époque, qui s'avère encore pire aujourd'hui, d'encourager la stupidité. Il parlait de la politique comme la plus mesquine des occupations humaines. Et il disait que le pire des gouvernements totalitaires, c'est qu'il encourage cette stupidité. Nous sommes en pleine preuve dans le temps que nous vivons dans ce pays. Cet encouragement de la stupidité, c'est quelque chose qu'il avait en horreur. Il pouvait dire avec M. Tess que la bêtise n'était pas son fort. Et il avait un extraordinaire sens de l'humour qu'il utilisait pour combattre justement cette bêtise. Je vous raconte une ou deux anecdotes et après je vous laisse poser des questions. On a dit plusieurs fois que Borges ne prenait pas des positions politiques ou que pire encore, il avait serré la main des dictateurs militaires comme Pinochet et Videla. C'est vrai, mais il avait une sorte de naïveté envers les cérémonies officielles auxquelles il n'accordait aucune importance. Mais en même temps, face à une vraie situation politique contestable, il répondait. Il était contre le nazisme, contre le fascisme, contre le péronisme, contre le communisme, et il a manifesté tout ça très clairement. Lors de la guerre des Malouines, quand il a appris que les généraux argentins envoyaient tous ces jeunes à se faire tuer aux Malouines, il a écrit une lettre de dénonce dans un des journaux les plus importants de l'Argentine, en disant que c'était justement ces généraux argentins qui n'avaient jamais été dans une guerre, et qui n'avaient jamais entendu siffler une balle par-dessus leur tête, qui envoyaient ces jeunes à se faire tuer. Il a reçu comme réponse la lettre d'un général argentin qui lui disait: moi, je suis un général argentin et moi, j'ai entendu une balle siffler au-dessus de ma tête. Auquel Borges a répondu ses plus humbles excuses qu'en fait, oui, il s'était trompé, qu'il y avait un général argentin qui avait entendu une balle siffler au-dessus de sa tête. Il réagissait comme ça aussi contre la vanité des écrivains. À un moment donné, le roman d'un écrivain argentin qui après a été très courageux pendant la dictature militaire, qui est Ernesto Sabato, avait été publié en France et l'éditeur avait mis un bandeau autour du livre où on pouvait lire « Sabato, le seul rival de Borges ». Et on a dit ça à Borges. Et Borges a réfléchi, et a fait ce commentaire. Ah, qu'est-ce qu'il est intelligent, Sabato. Moi, j'aurais jamais pensé à mettre Borges, le seul rival de Sabato. Borges était pour moi un lecteur immensement généreux, immensement intelligent, et qui nous a donné à nous tous, lecteurs, le courage de notre pouvoir et de nos goûts, et nous a dit qu'il ne fallait pas se soumettre à la littérature officielle et de faire confiance à ce qui nous plaît et ce qui compte pour nous, chacun d'entre nous, main sur le cœur, des livres qui, sans lesquels, Borges disait, l'univers serait plus pauvre. Merci.